Alors, tout d'abord, vu l'actualité, nous voulons simplement avoir une pensée aujourd'hui pour Georges Semprin, l'Européen, qui vient de nous quitter. C'est tout. Nous allons tout de suite commencer. Nous voulons d'abord remercier vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Ensuite, tous les intervenants qui ont répondu favorablement à notre appel à contribution. Nous voulons aussi à remercier l'ENSIB de nous avoir invités à monter cette journée d'études et d'avoir validé notre choix. Et nous remercions tous ceux qui, au sein de l'école, ont permis l'organisation de cette journée, Christelle Petit, Christophe Catanez et Raphaël Batz. Alors, tout d'abord, une petite synthèse qui va commencer par quelques repères chronologiques. D'une part, le Conseil européen de Milan, des 28-29 juin 1985, approuve le rapport du Comité pour l'Europe des citoyens, qui affirme le rôle prépondérant que doivent jouer la culture et la communication dans le cheminement même de l'idée d'Europe. La culture et la communication constituent les éléments essentiels de l'identité européenne et de l'image de la communauté dans l'esprit de ses citoyens. D'autre part, 2011 marque les 20 ans du traité de Maastricht qui inscrit enfin la culture dans la politique de l'Union européenne. Par cela même, le traité affiche la volonté de développer les relations culturelles entre les peuples dans le respect mutuel de leur histoire, de leur culture et de leur tradition. La communauté européenne contribue, nous citons, à l'épanouissement des cultures des États membres tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. L'article 30 du même traité prévoit des mesures spécifiques destinées à protéger des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique et archéologique et autorise les aides d'État destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Enfin, du côté de l'information scientifique, citons pour mémoire en mars 2000 la stratégie de Lisbonne visant à promouvoir une société de l'information, et là l'Europe, bien sûr, vous le savez, les bibliothèques, vous le savez, ont toute leur place, et une société où l'éducation et la formation tout au long de la vie seraient prépondérantes. Alors derrière cette esquisse de tableau chronologique, nous devons quand même bien garder à l'esprit la frilosité, voire même le refus des États-nations membres de voir la communauté européenne s'octroyer des compétences culturelles, et ce par crainte d'une uniformisation qui entraînerait la perte de spécificité, la perte des richesses et des diversités. C'est dans ce contexte qu'il nous apparaît quand même pertinent d'essayer d'identifier la nature de cette politique culturelle, perçue peut-être à tort comme par trop timide, notamment en direction des bibliothèques. Les bibliothèques relevant de la politique culturelle, du patrimoine, de la société de l'information et de la connaissance, elles s'imposent pourtant naturellement comme une des pierres d'angle d'une politique qui voudrait promouvoir l'idée d'Europe. Idée d'Europe que l'on peut aussi désigner, selon les approches philosophiques et les contextes historiques, esprit européen, conscience européenne, identité européenne, ces concepts n'étant pas exactement équivalents. Cependant, derrière ces termes, chacun s'accorde à dire que ce qui caractérise l'Europe, dans l'une de ses formes essentielles de sa culture, c'est une dialectique entre unité et diversité. C'est aussi de fait la pluri-appartenance culturelle. Ne peut-on considérer que la bibliothèque, quel que soit son statut, s'inscrit de facto dans l'esprit européen tel que le définit Lucien Jaume dans son ouvrage « Qu'est-ce que l'esprit européen ?» Jaume récuse l'identité, reprochant à ce terme d'être un terme fixiste et d'impliquer un cadre fermé. Et Jaume définit l'Europe à partir de sa capacité à dialoguer avec elle-même et avec les autres. Dialogue qui a mené à partir de la Renaissance à l'invention de l'individu, tout à la fois unique et universel. Selon Jaume, il s'agit de penser l'Europe non en termes d'identité, mais dans les formes d'un patrimoine intellectuel, des idées, une forme de vision du monde très particulière. Alors, dans ces conditions, chercher l'Europe dans notre périmètre d'activité est d'autant plus nécessaire que l'absence des bibliothèques dans les politiques générales de l'Europe semble plutôt être la règle, même si en 1984, la résolution Schwenke ira jusqu'à proposer de créer une bibliothèque européenne. Cependant, ces propos sont à nuancer, car la Commission européenne, depuis ces dernières décennies, favorise la construction d'une Europe des bibliothèques. essentiellement à la faveur de l'essor de la nouvelle économie liée aux nouvelles technologies. L'action de la Commission européenne auprès des bibliothèques dépend de trois directions. Recherche et société de l'information, politique régionale, éducation et culture. Et il est parfois difficile d'avoir une bonne lisibilité et une bonne appréciation des politiques menées. En 2008, le Conseil de l'Europe est à l'initiative du livre blanc sur le dialogue interculturel, mais il mentionne seulement les bibliothèques, une seule occurrence, simplement. Le livre blanc dit qu'il s'agit de créer des espaces réservés au dialogue interculturel ou d'étendre ceux qui existent. Mais en fait, le terme bibliothèque n'apparaît qu'une seule fois dans ce petit livre blanc. Alors que nous apporte l'Europe en tant qu'Union européenne et nous, bibliothécaires, que lui apportons-nous? Nos pratiques professionnelles s'inscrivent-elles dans une dimension européenne, dans la conscience de partager un sens commun? Dans le contexte de l'arrivée du numérique, les bibliothécaires s'interrogent sur leur place et leur rôle dans la cité. Cette réflexion doit se poser dans un cadre européen. Le numérique, bouleversant chaque maillon de notre pratique professionnelle, quelle que soit la nature de nos collections et de nos publics. Et c'est par le biais de ces nouvelles technologies que les instances européennes commencent à être à l'écoute de nos institutions, de nos professions, et à initier, comme nous l'avons déjà évoqué, des politiques volontaristes de coopération autour de programmes de numérisation, en mobilisant d'abord les bibliothèques nationales d'Europe, mais aussi au travers d'autres initiatives et projets, comme on pourra le voir tout au long de la journée. Alors cette journée va d'abord s'ouvrir avec une contribution introductive questionnant ces termes « Europe, bibliothèque et culture » et leurs relations dans le contexte d'études propres à cette journée. Ensuite, nous aurons l'occasion de nous pencher sur des exemples concrets de la politique de l'UE, programme lié au numérique, chantier en cours sur la question des droits d'auteur européens, du droit d'auteur européen. L'après-midi, nous ferons un retour sur deux expériences, les programmes e-corpus, financés dans le cadre de fonds structurels, et la place de l'Europe dans l'action culturelle des médiathèques d'une région transfrontalière. Enfin, une table ronde permettra des échanges autour de trois axes liés au dialogue des cultures et des échanges professionnels. Je laisse la parole à Joëlle Rocha.
Monsieur Leloir-Herre, la raison pour laquelle nous vous avons invité est votre riche parcours professionnel de bibliothécaire, jusqu'à votre dernier poste, celui de directeur de la bibliothèque de l'Office des Nations Unies à Genève. Avant de vous céder la parole, quelques mots sur cette bibliothèque, et grâce à elle, nous comprendrons bien la raison de votre venue parmi nous. La bibliothèque de l'ONU est l'héritière de celle de l'ancienne SDN, la Société des Nations, qui avait été créée en 1919, et puis elle est issue également du don en 1927 de l'américain Rockefeller pour la construction d'une bibliothèque qui soit, je cite, « un centre de recherche international et un instrument d'entente entre les peuples ». Tout l'esprit était déjà là. Cette bibliothèque a été transmise en 1946 à l'Organisation des Nations Unies. Elle est devenue aujourd'hui la bibliothèque de l'Office des Nations Unies à Genève. C'est aujourd'hui une des plus grandes en Europe, en dehors de certaines BN ou de la bibliothèque du Vatican. Je signale encore, avant de vous céder la parole, que c'est lorsque vous étiez en fonction en 2009 que les archives de la SDN ont été inscrites au registre de la mémoire du monde. Ces archives sont très consultées par les historiens, les chercheurs du monde entier, mais aussi par les politiques, qui viennent consulter notamment les cartes liées aux traités qui définissent certaines frontières. On pourrait également parler un peu plus tard lors des échanges avec la salle du musée qui vous est chère à l'intérieur de la bibliothèque et des liens, des confluences entre musée et bibliothèque, mais nous verrons cela peut-être dans la suite de la matinée. Monsieur Leloir-Herre, je vous cède donc maintenant la parole afin que vous nous livriez votre vision de la culture ou des cultures européennes ainsi que la place que les bibliothèques y occupent.